On a vu jusqu'à date dans notre étude dans la Genèse, ouais, ce sont des mots anciens que nous étudions. Ça date de plusieurs millénaires même. Mais c'est toujours impressionnant de voir à quel point ça reste actuel. C'est la parole de Dieu qui traverse les âges, qui est une source de réconfort, de sagesse. Le personnage d'Abraham et sa femme Sarah, ils ont eu enfin leur fils Isaac. Et ça faisait 37 ans qu'ils vivaient ensemble. Donc, lorsque Abraham a eu enfin son fils, il a quand même vécu environ 37 ans avec Sarah, son épouse, et leur fils. Jusqu'à ce que finalement Sarah décède, elle mourut, elle laissa Abraham et Isaac dans le deuil. Donc, ils ont quand même connu la tristesse. On a vu la semaine passée comment Abraham a honoré la mémoire de Sarah. Sarah qui veut dire « princesse ». Elle était la princesse de la maison d'Abraham. Et même, elle était connue dans Canaan. Il a honoré sa mémoire. Il a acheté un champ avec un sépulcre où il a été enterré. Et tous ont su que Sarah avait été enterrée là. Et il a acheté le champ dans la terre promise, dans Canaan. Elle était précieuse non seulement pour Abraham, mais elle était précieuse aussi pour son fils Isaac, sa mère. Quand la mort frappe quelqu'un de notre famille, ça nous touche, particulièrement quelqu'un qui est proche, quelqu'un qu'on aime. On va tous passer par là un jour ou l'autre. On vit dans un monde qui n'a pas encore été régénéré, recréé par le Seigneur. Et la mort est là, la mort est présente. Le malheur peut nous frapper. Heureusement, Dieu est là pour nous consoler. Et Dieu peut apporter une consolation qui est réelle. Ce n'est pas temporaire, comme un bien matériel ou un ami qui va nous laisser après quelque temps. C'est un ami qui est toujours là, qui est fidèle. Une consolation réelle qui reste. Et c'est ce que nous allons voir dans le passage aujourd'hui. On a vu aussi qu'Abraham avait été informé que sa famille qui était restée, une partie de sa famille, son frère et son père étaient restés en Mésopotamie. Eux aussi avaient été bénis de l'Éternel et la famille s'était agrandie. C'est pas pour rien que c'était venu à la connaissance d'Abraham. Il avait su que son frère Nahor, en Mésopotamie, avait eu des enfants. L'histoire qu'on lit aujourd'hui se passe peu de temps après que Sarah soit décédée. Isaac avait 40 ans. C'est ce qu'on apprend dans le chapitre suivant qu'on va voir la semaine prochaine. Mais Isaac était encore seul, célibataire. Donc, le départ de sa mère a dû l'affecter. On voit plusieurs signes qui montrent qu'il était dans une tristesse. Mais c'est ce qui a fait réagir Abraham. Donc, tournez avec moi dans Genèse, chapitre 24. C'est un long chapitre, mais on va lire un premier bout. On va lire les 9 premiers versets. Genèse 24, versets 1 à 9. Donc, Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux. Il avait atteint un âge avancé. Et l'Éternel l'avait béni en tout. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, « Tu vas mettre ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Et le serviteur lui répondit, « Peut-être que la femme ne voudra pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? » Et Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. L'Éternel, Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, lui qui m'a parlé, qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. » Et le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et il lui prêta serment au sujet de cette affaire. Donc, Abraham était rendu vieux. Il pensait à son fils qui le succéderait après sa mort. D'ailleurs, il lui avait déjà légué tous ses biens. Abraham était encore le seigneur de cette maison, d'une grande un grand groupe de serviteurs aussi. Il était le bienfaiteur. Il était celui que tous respectaient. Il était le seigneur de ce serviteur en particulier. Puis parce qu'il voyait sa mort s'en venir, il était avancé en âge, âgé. C'est vraiment une expression pour dire qu'il voyait la mort qui s'en venait là. Il pensait à l'avenir de son fils Isaac. Pour cela, il avait à cœur que son fils épouse une femme de sa famille, parmi ceux qui partageaient sa foi en l'Éternel. Une femme de son peuple, de sa maison. Et non parmi les Cananéens qu'il avait vus sombrer dans le mal plusieurs fois. Les Cananéens qui avaient produit des villes comme Sodome et Gomorre, qui ont été détruites. Des Cananéens qui osaient s'opposer à la volonté de Dieu. Des Cananéens qui n'adoraient pas le seul vrai Dieu. Et d'ailleurs, Dieu avait annoncé la ruine des Cananéens. Un jour, les descendants d'Abraham allaient prendre possession de ce pays et les Cananéens allaient être défaits. Donc, Abraham ne voulait pas que la femme de son fils provienne de ces peuples. Mais il s'est assuré aussi qu'Isaac reste en Canaan, la terre que Dieu avait promise à sa descendance. Il fallait qu'il reste dans ce pays. Il ne devait pas quitter ce pays, même pour aller chercher une femme, donc au risque de rester célibataire. Il devait rester pour éviter toute tentation de ne pas revenir. Il était important qu'il reste sur la terre que Dieu lui avait donnée. Et ce n'est pas pour rien, on a vu la semaine passée qu'Abraham avait même acheté un champ pour que la dépouille de Sarah y soit enterrée et que lui-même allait être enterré là. Il y avait un pied à terre, une propriété en Canaan, une première propriété dans la terre promise que Dieu lui avait donnée. Mais à vue humaine, c'était un peu l'impasse, là, parce qu'Isaac devait prendre une femme qui n'était pas là, mais il ne pouvait pas sortir. À vue humaine, c'est l'impasse, il n'y a pas de solution. Mais Abraham avait une telle foi en Dieu qu'il était sûr que Dieu allait respecter sa promesse. Dieu avait dit que non seulement ses descendants allaient posséder Canaan, mais que c'était par Isaac qu'il allait avoir sa descendance. Donc Isaac devait forcément se marier et avoir au moins un fils. C'était la promesse de Dieu. Donc Abraham avait la foi que peu importe le scénario qui allait se présenter, la promesse de Dieu allait être accomplie. Puis là, il a été convaincu que c'était la volonté de Dieu qu'Isaac prenne une femme parmi son peuple. D'où l'expression, il dit à son serviteur, « L'Éternel enverra son ange devant toi. » L'Éternel va faire en sorte que les événements vont se dérouler pour que sa volonté s'accomplisse. Et on le voit d'ailleurs dans plusieurs récits dans la Bible où Dieu utilise les événements, utilise même les humains, sans qu'ils le sachent, pour arranger les choses pour que sa volonté s'accomplisse. Et souvent, Dieu envoie les anges. Les anges ont pour mission, ont cette mission-là, d'accomplir sa volonté lorsqu'il les envoie sur la terre. Et il dit dans Hébreux 1,14, Hébreux dans le Nouveau Testament, en parlant des anges, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Les anges, lorsqu'ils sont envoyés sur la terre, ont cette mission-là. Jusqu'à le jour du jugement, où là, ils auront une autre mission. Mais pour l'instant, leur mission, c'est vraiment de venir servir et de modifier les événements, d'intervenir en faveur de ceux qui ont la foi, de ceux qui sont héritiers du salut. Comme Abraham, par la foi, a hérité le salut. Et comme les chrétiens, aujourd'hui, par la foi, peuvent hériter ce salut. Mais en quoi c'était si important qu'Isaac épouse une fille du peuple d'Abraham? Est-ce que c'était vraiment grave s'il prenait une autre femme? Pourquoi Abraham insistait vraiment sur ce point? La Bible déclare à plusieurs reprises un principe qu'on peut facilement observer aussi. C'est que lorsqu'on est lié à quelqu'un qu'on aime et qui n'est pas croyant, il va forcément nous influencer. Notre marche chrétienne va être difficile. Et malheureusement, très souvent, lorsqu'un chrétien et un non-chrétien sont associés, que ce soit par le mariage ou par les affaires, le non-chrétien va avoir une influence mauvaise sur le chrétien. C'est rarement le contraire qui va arriver. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et dans 2 Corinthiens 6, il dit, « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. » C'est-à-dire, ne vous mettez pas sous le même joug qu'un incroyant, comme deux bœufs qui sont attelés pour tirer un char. Si ce sont deux bœufs qui sont disparates, ça ne fonctionnera pas. Le char va aller tout croche, il va avoir un accident. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et Abraham considérait justement Dieu comme son père. Et sa famille était la famille de Dieu. C'était logique pour quelqu'un qui avait la foi d'Abraham de voir que la seule femme qui était bonne pour son fils, c'était une femme qui partageait cette foi. D'ailleurs, après l'époque d'Abraham, lorsque le peuple d'Israël a été officialisé et que Dieu a donné sa loi au peuple d'Israël, ça faisait partie de la loi même. Dieu l'a spécifié non seulement comme un principe universel, mais comme une loi. Lorsqu'il a dit au peuple d'Israël, « Lorsque tu iras en terre promise et que tu vas rencontrer les Cananéens ou les autres peuples autour, tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils. Tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Car ils écarteraient de moi tes fils, qui rendraient un culte à d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il détruirait promptement. » Puis à notre époque, c'est vrai que nous ne sommes plus sous la loi, mais le Seigneur Jésus nous a quand même donné un commandement très clair. Et par la bouche de son apôtre Paul, il dit en 1 Corinthiens 7, 39, donne l'exemple d'un couple qui est marié, il s'adresse à la femme. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari est décédé, elle est libre de se remarier à qui elle veut. Seulement, que ce soit dans le Seigneur, que ce soit dans la famille de Dieu. Ça ne pourrait pas être plus clair, la volonté de Dieu ici, qu'un homme choisisse une épouse dans le Seigneur, qu'une femme choisisse un époux dans le Seigneur, dans la famille de Dieu. Ça ne veut pas dire dans notre église locale, forcément, mais dans la communauté des chrétiens de par le monde. Quelqu'un qui partage sa foi, un mariage entre un chrétien et un non-chrétien, c'est dans tous les cas contre la volonté de Dieu. Le serviteur a accepté cette mission-là, il a prêté serment. Et il dit une coutume étrange, il a mis sa main sous la cuisse d'Abraham. Il semble que c'était une manière solennelle de prêter serment à un vieillard, parce que les autres exemples qu'on a dans la Bible, c'était à des gens âgés. Et on a trouvé d'autres exemples aussi dans d'autres manuscrits, des textes très anciens. Dans le fond, la personne prêtait serment. Non seulement il s'engageait en face du vieillard qui était devant lui, mais il s'engageait envers sa progéniture. Peut-être c'est à cause de ça que la main est proche, en tout cas, elle était sous la cuisse. Mais il s'est engagé, il a prêté serment. Et même après la mort éventuelle d'Abraham, le serviteur restait engagé envers son serment. Il prêtait serment devant Dieu. Il allait le trouver. Il allait se rendre en Mésopotamie, trouver une femme pour Isaac. Le seul moyen qu'il pouvait être libéré de ce serment, c'est si Dieu lui montrait la femme et que la femme refusait. Continuons notre lecture à partir du verset 10 dans Genèse 24. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, c'est-à-dire Abraham, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et se rendit en Mésopotamie, à la ville de Nahor, ou Nakhor. Il fit agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, près d'un puits, un puits d'eau, au moment où, le soir, sortent celles qui vont puiser de l'eau. Puis il dit à l'Éternel, « Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche et agis avec bienveillance envers mon Seigneur Abraham. Mais voici placé près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. qu'elle soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Ainsi, je connaîtrai que tu agis avec bienveillance envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, fille de Bethuel, petite-fille de Milca et de Nahor, frère d'Abraham. C'était une très belle jeune fille. Elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, elle remplit sa cruche et remonta. Et le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Donne-moi, je te prie, quelques gorgées d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'incliner sa cruche et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut pour puiser encore au puits. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme s'interrogeait en silence à son sujet pour savoir si l'Éternel faisait, oui ou non, réussir son voyage. Et quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-sicle et deux bracelets du poids de 10 sicles d'or pour ses poignets. Et il dit, « De qui es-tu? De qui es-tu la fille? Déclare-le-moi, je te prie. Y a-t-il pour nous, dans la maison de ton père, de la place pour passer la nuit? » Et elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, le fils que Milca a donné à Nahor. » Et elle ajouta, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a cessé d'exercer sa bienveillance et sa fidélité envers mon Seigneur. L'Éternel a guidé mes pas jusque dans la maison des frères de mon Seigneur. » Et la jeune fille courut raconter tout cela chez sa mère. Wow, on voit ici que le serviteur avait pris son engagement au sérieux. Il a agi promptement. D'ailleurs, au verset 10, comme on vient de lire, il n'y a pas de pause là. Lorsque il finit de prêter serment, lorsqu'on lit dans le texte hébreu, c'est intéressant de voir. Lorsqu'on lit dans l'original, en hébreu, on peut voir lorsqu'il y a des pauses. Mais ça, c'est difficile à traduire. Mais ici, il n'y a vraiment pas de pause. C'est une suite d'événements. Tout de suite après, il prend 10 chameaux et il part. Et dans le même verset, il est rendu en Mésopotamie. On voit qu'il n'y a pas de niaisé avec le POC. Il a tout pris, en plus, en partant, pour ce qu'il fallait pour faire une demande en mariage en bonne et due forme. Il a pris 10 chameaux parce que ça pouvait être un don. Il avait accès à tous les biens d'Abraham. On peut croire qu'il a pris suffisamment de biens pour être capable de donner une dot de fiançailles, pour être sûr qu'il n'y a rien qui l'empêche, qu'il n'y a aucun obstacle qui vienne de lui dans la mission qui lui avait été confiée. Non seulement il agissait par fidélité envers son maître Abraham, on voit un serviteur très fidèle, mais il agissait aussi pour honorer l'Éternel Dieu. On voit un serviteur ici qui croyait en Dieu, qui interroge Dieu, qui lui fait des requêtes, qui le voit agir, qui a la foi. Il avait la même foi que son maître, qu'Abraham. Il a prié en remettant la direction de sa mission entre les mains de Dieu. Il a fait des demandes très spécifiques. Mais en fait, c'était pour remettre la décision à Dieu. « Conduis-moi vers celle que tu as choisie. Je saurai que c'est elle. » Puis la demande qu'il lui fait montre la fermeté de sa foi, à quel point il a confiance en l'Éternel. Et on ne voit pas même Dieu qui lui parle ou qui lui montre une vision. Il a seulement prié Dieu et ensuite il l'a vu agir. Et il a pu voir Dieu agir. C'est une marque de la foi lorsqu'on voit les agissements de Dieu. Il croyait que Dieu pouvait diriger les événements et même pouvait diriger les gens. Il croyait que Dieu pouvait conduire la future épouse d'Isaac à lui. Il a même osé demander une femme de valeur pour son maître, parce qu'il a spécifié des détails importants, qu'elle soit prête à me donner à boire, qu'elle offre même d'elle-même de donner à boire à mes chameaux, qu'elle soit une femme vertueuse, une femme de valeur. Il a osé demander ce qui était bon pour son Seigneur. Mais il ne savait pas si Dieu approuvait ou pas encore sa mission. Il obéissait à son maître. Et il s'en remettait à la volonté de Dieu. Dans son esprit, Dieu aurait pu dire, « Non, ce n'est pas mon plan. » Mais par humilité, il avançait en se remettant à la volonté de Dieu. Puis Dieu n'a pas tardé, il lui a montré tout de suite qu'il approuvait sa mission. Le serviteur n'avait même pas encore terminé sa prière que Rebecca s'est avancée. Et ce n'était pas la dixième qu'il rencontrait, c'était la première femme serviable qui était prête à lui donner à boire, qui s'est offerte d'elle-même pour donner à boire au chameau. Puis ensuite, en plus, il a appris que cette femme, en plus d'être vertueuse, elle est membre de la famille, de la même famille d'Abraham. Elle est membre de cette famille des gens qui ont une foi, des serviteurs de Dieu. Waouh, ce n'était pas un hasard. Le serviteur, tout de suite, il s'agenouille, il reconnaît l'intervention de Dieu. Il reconnaît la bienveillance, la fidélité de Dieu. Il a vu Dieu agir pendant toutes ces années. Et après la naissance d'Isaac, c'est passé, on l'a vu, 37 ans, et même là, ça faisait 40 ans qu'Isaac était né. Le serviteur a été témoin de cela. Certains pensent que c'est le serviteur Éliézer. Ce n'est pas précisé ici, mais le serviteur a vu comment Dieu a pris soin d'Abraham et il a conclu que Dieu était encore fidèle pour prendre soin. Et il l'a loué pour cela. Il l'a loué pour sa bienveillance, sa bonté. Il n'y avait pas de hasard. Il a reconnu que tout avait été dirigé par Dieu. Aurions-nous agi de la même manière si nous étions à sa place? Ça, c'est un peu dire à déterminer. On n'est pas dans ses souliers. Si on avait apprêté serment devant le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de nous engager dans une mission, et même qu'on prêtait serment devant témoin, dans une mission qui nous est confiée et qu'on le jure devant Dieu, est-ce qu'on honorerait cette mission? Est-ce qu'on respecterait nos engagements? Bien, en fait, peut-être que parfois on l'oublie, mais on l'a fait. On s'est engagé devant le Dieu du ciel, le Dieu de la terre. On s'est engagé dans la mission qu'il nous a confiée. Le jour où on a accepté de prendre Jésus pour sauveur, on a accepté de le prendre pour Seigneur. Et le Seigneur nous a confié une mission. Et lorsque nous sommes engagés dans la foi pour lui, nous avons juré à l'Éternel, au Dieu du ciel, au Dieu de la terre. Nous l'avons même signifié symboliquement par les eaux du baptême. Nous nous sommes même engagés devant témoins. Quelle est cette mission? C'est de participer à l'édification de l'Église de Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et comment il veut la bâtir? C'est par nous, c'est par ses serviteurs qu'il envoie. Comme Abraham a envoyé son serviteur en mission, il nous a envoyés en mission, chacun de nous, pour contribuer à l'édification de son Église. Premièrement, en s'engageant nous-mêmes à être des disciples, en s'engageant nous-mêmes à être des serviteurs dignes de l'appel, digne de la mission qui nous a été confiée. Ça fait partie de notre mission d'être un disciple qui veut ressembler à son Seigneur, qui veut ressembler de plus en plus à Christ, qui vise une seule chose, la perfection, qui ne se contente pas d'obéir à l'occasion, ou le plus souvent possible, ou lorsque c'est possible, qui ne se contente jamais du point où il est arrivé, qui vise la perfection, c'est la mission qui nous a été confiée. Et non seulement pour nous, cette mission-là, elle est communautaire. En devenant un disciple de Christ, nous acceptons d'obéir à tout ce qu'il nous a prescrit. Et une chose qu'il nous a prescrit, c'est de se reproduire, c'est de faire des disciples, de contribuer à la formation d'autres disciples. Soit en étant au front, en évangélisant, soit en étant à l'arrière et en formant, ou soit les deux. Mais nous contribuons à faire de nouveaux disciples, à les conduire au baptême, et à leur enseigner tout ce que Jésus nous a prescrit. Lorsqu'on se relâche, on est un serviteur infidèle. Mais notre mission n'est pas moins solennelle que la mission que le serviteur avait reçue ici. Et manquer à cette mission-là n'est pas moins grave que si le serviteur ici avait manqué à sa mission. Nous nous sommes engagés devant Dieu. Et c'est la mission qui devrait occuper toute notre vie et avoir la plus haute priorité. Quoi que ce soit que nous demandions à Dieu pour accomplir justement cette mission-là, Dieu va nous l'accorder, c'est sa promesse. On peut demander plein de choses au Seigneur, mais parfois, on n'est pas conscient, mais on demande des choses qui n'ont rien à voir avec la mission qu'il nous a confiée, qui n'ont rien à voir avec notre édification personnelle ou l'avancement de l'œuvre. Mais lorsque ça a à voir avec la mission, lorsque c'est ça notre motivation, le Seigneur, sa réponse, ça va être oui. Dans 1 Jean 5, il dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous le possédons, ce que nous lui avons demandé. Psaume 37, versets 4 et 5, dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais si ce n'est pas de l'Éternel que je fais mes délices, ce que mon cœur va désirer, ce ne sera pas nécessairement bon. Je vais désirer gagner à la loto 649, je vais désirer être populaire, je vais désirer une vie de confort, ne plus avoir à travailler, toutes sortes de choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, là. C'est sûr que c'est ça qu'on va désirer. Mais lorsqu'on fait de l'Éternel nos délices, ce qu'on va désirer, c'est ce qui plaît au Seigneur. Il va nous l'accorder. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Lui, il va s'assurer que tu accomplisses ta mission. Il va enlever, il va aplanir les sentiers devant toi. Mais là, à l'épreuve, tu vas voir qu'il va aplanir les sentiers. Il va te donner la force. Tu ne manqueras pas de ressources pour accomplir sa mission. Même de ressources monétaires. Et il va pourvoir à ce qu'on puisse accomplir notre mission. En ce qui concerne le mariage, puisqu'on est dans le thème du mariage, ça fait aussi partie de notre mission. On peut se demander, est-ce que le mariage dans ma vie fait partie de la mission que Dieu m'a confiée? C'est sûr que notre rôle dans cette mission-là peut être différent. Un célibataire peut se demander si c'est la volonté de Dieu qu'il se marie ou pas. Mais nous voyons que c'est souvent le cas. Dieu dit dans la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon pour la femme non plus qu'elle soit seule. Et l'homme et la femme se complètent. Et ensemble, normalement, ils seront plus forts. Ils pourront s'entraider, se fortifier, accomplir cette mission-là. Ça ne peut qu'être positif. Mais dans certains cas, la réponse de Dieu, c'est non. Dans certains cas, Dieu a une mission spéciale pour quelqu'un. Il veut qu'il reste célibataire. Il veut qu'elle reste célibataire pour pouvoir le servir. Mais ce qui est clair, c'est qu'un mariage, dans tous les cas, un mariage doit être dans le Seigneur, comme on l'a déjà dit. Et qu'un mariage qui n'est pas dans le Seigneur est contre la volonté de Dieu et ne pourra pas contribuer à la mission qu'il nous a confiée. Certains ont conclu en voyant ici le récit, surtout la demande que le serviteur a faite auprès de l'Éternel, en lui a demandé un signe. Certains ont compris que c'est ce qu'on devait faire. C'est comme une procédure. Avant de se marier, je vais demander un signe. Il y en a qui demandent des signes et attendent très longtemps avant de se marier. Ou j'ai déjà lu une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a une dame qui cherchait son conjoint, puis elle a reçu une proposition en mariage, mais de quelqu'un qui était... Elle n'était même pas sûre s'il était chrétien, un ivrogne. Mais ce jour-là, il s'est mis à neiger, c'était en plein mois de mai. Elle dit, « Ah, ça, c'est un signe de Dieu. » Puis elle s'est mariée avec lui. Finalement, ça a mal tourné. Ça n'a pas... Hey, c'est supposé être triste, cette histoire-là. Non, mais il faut faire attention à comment on interprète ça. La leçon de ce passage n'est pas cela. La leçon de ce passage, c'est de faire confiance à la volonté de Dieu. Et nous avons présentement un guide. Nous avons un guide qu'on peut consulter. Ce n'est pas une lettre morte. C'est une lettre vivante. On peut le consulter à tous les jours. Et Dieu nous parle lorsque l'on lit la Bible. Comment il nous parle? Parce qu'il utilise le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit utilise les mots que l'on lit pour nous conduire dans la direction qu'il veut. Il va aussi utiliser nos frères et sœurs qui viennent nous parler. Si demain je suis convaincu que Dieu m'appelle à faire quelque chose, mais que tout le monde autour de moi me dit « pense pas que tu devrais faire ça. » Là, je prie le Seigneur, puis plus que je prie, plus qu'il y a des gens qui viennent me dire « tu ne devrais pas faire ça. » Et moi, je suis convaincu que Dieu m'appelle par là. Bien, peut-être que je ne suis pas appelé à aller par là. Dieu va se servir aussi de la parole de nos frères et sœurs pour approuver ce que l'on fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le prochain passage qu'on va voir. Mais est-ce qu'on est rendu là? Oui, justement. Parce que dans la prochaine section qu'on voit, on voit que Dieu approuve la démarche que prend le serviteur par la bouche des autres autour de lui. C'est une bonne confirmation. On n'est pas seul dans cette mission. Et ça peut sembler étrange, là on va lire un passage qu'on dirait que l'auteur il s'est trompé, il est en train de répéter une foule de détails. Certains vont dire, ça c'est l'œuvre de quelqu'un qui n'est pas un grand écrivain. Mais c'est faux. Ceux qui étudient la langue hébraïque de l'époque se rendent compte que c'est un texte d'une très haute valeur littéraire. Pour les gens de l'époque, à l'époque de l'Antiquité, d'avoir des répétitions, ou est-ce que c'est dans les mots exacts, Il y a des détails qui sont prédits et on voit l'accomplissement dans les détails à la lettre. Ça montrait un texte d'une grande valeur. Il y avait un sens qui était donné là. Et les gens, à l'époque, aimaient entendre ou lire des textes où il y avait des répétitions. Ça faisait partie d'un texte qui était bien pensé, bien structuré. C'est un peu étranger à notre façon de lire aujourd'hui, mais si on se remet dans le contexte de l'époque, il y a un message aussi. L'auteur Moïse est en train de nous montrer que tout ce que Dieu avait prévu de faire, il l'a fait. Donc, lisons à partir du verset 29. Toujours dans Genèse 24, verset 29. Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Et il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de sa sœur Rebecca qui disait « Ainsi m'a parlé cet homme. » Et il vint donc vers l'homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il lui dit « Viens, toi qui es béni de l'Éternel. Pourquoi restes-tu dehors? J'ai déblayé la maison et une place pour tes chameaux. » L'homme entra dans la maison et Laban fit décharger les chameaux et donna de la paille, du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et aux gens qui l'accompagnaient. Puis on plaça devant lui de quoi manger. Mais il dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Mais parle, » dit Laban. Alors il dit, « Je suis le serviteur d'Abraham et l'Éternel l'a grandement béni, mon Seigneur, qui est devenu un homme important et lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux, des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a dans sa vieillesse enfanté un fils à mon Seigneur. Et c'est à ce fils qu'il a donné tout ce qui lui appartient. Et mon Seigneur m'a fait prêter serment en me disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. » Mais tu iras dans ma famille, dans mon clan, prendre une femme pour mon fils. Et j'ai dit à mon Seigneur, mais peut-être que la femme ne me suivra pas. Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et te fera réussir dans ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme de mon clan, de ma famille, et tu seras dégagé du serment que je t'impose quand tu auras été dans mon clan. « Si jamais on ne t'accorde pas la jeune fille, tu seras dégagé du serment que je t'impose. » Alors je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, me voici placé près de la source d'eau. Que la jeune fille qui sortira pour puiser et à qui je dirai, « Donne-moi à boire, je te prie, un peu de ta cruche. » Et qui me répondra, « Bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux. » Que cette jeune fille-là, « Sois la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Et avant que j'aie fini de parler en mon cœur, voilà Rebecca qui sort, la cruche sur l'épaule, et elle descend à la source et puise. Je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » Et elle s'est empressée d'incliner la cruche qu'elle portait, et elle a dit, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai bu, puis elle a aussi donné à boire aux chameaux. Et je lui ai demandé, « Mais de qui es-tu la fille ?» Elle a répondu, « Je suis la fille de Bethuel, la petite fille de Nahor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets, puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a fidèlement conduit à prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Et maintenant, si vous voulez agir avec bienveillance et fidélité, envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi aussi, et je retournerai à droite ou à gauche. » Laban et Bethuel répondirent en ces termes, « Cette affaire vient de l'Éternel. Nous ne pouvons rien dire pour ou contre. Rebecca est là devant toi. Prends-la et va, et qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Donc, on voit ici à quel point le serviteur est pressé dans sa mission. Même une fois qu'il a enfin trouvé la femme, après ce long voyage, parce qu'il était parti du Négeb dans le sud là, jusqu'en Mésopotamie, c'est un long voyage. Il a hâte de voir le dénouement, il a hâte de voir la réponse à la promesse. Il ne veut même pas prendre le temps de manger. Je vais vous dire tout de suite ce qui est arrivé là. L'Éternel a agi. Ça le dévore, ce feu, il veut parler. Puis comme on l'a dit tantôt, le serviteur n'avait même pas reçu une parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui lui avait parlé en songe, qui lui avait adressé la parole, ou un ange qui s'était adressé à lui. Mais il avait la foi, il voyait Dieu agir. Comme on ne peut pas voir le vent, mais qu'on peut voir l'effet du vent. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir l'effet de Dieu. Celui qui a la foi peut voir. Et il a vu que c'était Dieu qui avait ouvert les portes pour que sa mission réussisse. Le serviteur avait la foi, et quand il a raconté son histoire à des gens de foi, ils ont vu la même chose que lui. C'est Dieu qui a agi. Notre capacité à voir Dieu agir, c'est directement lié à notre foi. Si elle est ferme, on va voir Dieu agir. Si elle s'est ramollie, si elle est endormie, on va perdre notre faculté de vision spirituelle, malheureusement. Moins on expérimente la prière, moins on expérimente la réponse à la prière. Moins on voit Dieu agir. Et on devient, sans s'en rendre compte, progressivement, incrédule. Ce n'est pas qu'on ne croit plus à la puissance de Dieu, mais on ne croit plus que Dieu est vraiment en train d'intervenir dans nos vies. Ça nous échappe. Ça vous est peut-être déjà arrivé de voir Dieu clairement agir dans votre vie. Vous avez vu que ce n'était pas une coïncidence. Dieu a répondu à la prière d'une manière évidente. Et vous le racontez à quelqu'un, il vous écoute, puis il est sceptique. Ça peut être juste une coïncidence, là. Je ne trouve pas que tu exagères. Puis pourtant, c'est quelqu'un qui sait que vous n'êtes pas un menteur, là. Ça peut être décevant parfois, mais à l'opposé, ça vous est peut-être déjà arrivé à vous. Que quelqu'un vous raconte l'expérience qu'il a vécue. Et souvent, même un nouveau chrétien, un nouveau croyant, Dieu va permettre des réponses à la prière spectaculaires pour fortifier sa foi. Et quand il nous raconte ça, à nous, chrétiens, depuis 40 ans, on peut dire, comme t'es nerveux, attends, tu vois Dieu agir partout. Mais c'est lui qui a raison. Nous sommes en train de nous endormir. Ici, on voit que Rebecca, Laban et leur mère, Bethuel, probablement que Nahor a été rendu trop vieux, ou peut-être qu'il était décédé. Mais c'est, les trois personnes qui sont mentionnées ont vu que ça venait vraiment de Dieu. Et Dieu a utilisé leur témoignage pour approuver la mission du serviteur. Le serviteur a une confirmation. Si eux-mêmes, qui n'ont pas vu ce qui est arrivé, puis ils croient simplement parce que je leur dis, c'est sûr que c'est l'Éternel. Et tout ce qu'il avait, le goût maintenant, c'était de retourner avec la fiancée. Il voulait repartir. Lorsqu'un chrétien décide de prendre une direction parce qu'il a reçu une confirmation de Dieu, normalement, il va recevoir aussi une approbation de ses frères. Dieu va confirmer l'appel qu'il a par l'Église. Et Dieu finalement permet au serviteur fidèle, qui est un peu le personnage principal de ce récit, Dieu permet au serviteur fidèle de voir le résultat, enfin le dénouement heureux. C'est comme une récompense pour le serviteur. Lisons le dernier bout, à partir du verset 52. Genèse 24, verset 52. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca, et il fit aussi des largesses à son frère et à sa mère. Après quoi, lui et ses gens, qui l'accompagnaient, ils mangèrent, ils burent et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi repartir vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Mais que la jeune fille reste avec nous encore quelque temps, une dizaine de jours, et ensuite tu pourras partir. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi repartir pour aller vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la elle-même. » Ils appelèrent Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme? » Et elle répondit, « Oui. » C'est presque « Oui, je le veux. » Et ils laissèrent alors partir leur sœur Rebecca et sa nourrice vers le serviteur d'Abraham et ses gens. Et ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Toi, notre sœur, deviens des milliers de myriades. » Que ta descendance ait même le contrôle de ceux qui te haïssent. » Ou dans une autre version, je pense qu'il contrôle les portes. Rebecca se leva avec ses jeunes servantes, et elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur prit Rebecca et partit. Cependant, ou pendant ce temps, Isaac était revenu du puits de Lahaï-Roï, et il habitait dans le pays de Négeb. Et un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans la campagne, il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac. Elle sauta en bas du chameau et dit au serviteur, « Qui est cet homme dans la campagne qui vient à notre rencontre? » Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors il prit son voile et se couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. C'est ainsi qu'Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Donc, avant de partir ici, le serviteur offre de nombreux cadeaux. C'était pour faire une demande en mariage selon les convenances, en bonne et due forme. Le serviteur avait hâte de voir enfin la conclusion de la mission. Il avait hâte de revoir son Seigneur, puis il a voulu partir tout de suite. Puis Dieu a montré encore une fois qu'il approuvait cette mission-là. Par les bénédictions que la famille a souhaitées à Rebecca. Ce qu'ils lui ont dit, là, que ta descendance soit des myriades de milliers et qu'ils aient même le contrôle de tes ennemis, c'est exactement la bénédiction que le Seigneur a fait à Abraham lorsqu'il n'a pas refusé de sacrifier son fils. C'est vraiment une confirmation que c'est selon le plan de Dieu. Et au verset 62, on voit tout à coup un changement de scène. Là, lorsqu'on lit dans le texte hébreu, c'est vraiment comme si la caméra vient de changer. Comme quand on regarde un film, là, la caméra se pointe maintenant sur Isaac, qui pendant que tout cela se passait, lui était revenu dans le Négeb, dans le pays du Sud, dans le Midi. Il vivait là. Il se trouvait par hasard sur la route de la caravane qui revenait. Et à ce moment-là, il était sorti justement le soir où la caravane arrivait, il était sorti pour méditer. Ici, c'est un verbe qui est difficile à traduire parce que c'est le seul endroit dans la Bible où il est utilisé, ce verbe-là. Mais il a un sens, certains voient qu'il a une racine commune avec se promener. Mais le fait d'être seul, de méditer, de réfléchir, ça a un sens aussi qui est proche, le sens de méditer sur ses malheurs, sur sa peine, sur sa situation tragique. Et ça faisait pas longtemps qu'il avait perdu sa mère. Peut-être qu'il était en train de méditer justement sur le fait qu'il était seul. Il avait perdu comme la femme dans sa vie. Et peut-être qu'il était en train de se confier à l'Éternel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait une foi dans l'Éternel. Parce que lorsque le serviteur arrive, il raconte tout ce qui s'est passé à Isaac. Puis là, on ne voit pas ce que Isaac répond. Peut-être qu'il n'a même pas pris le temps de répondre, mais ça a été clair dans sa tête. OK, c'est elle. Puis lui non plus, il n'a pas niaisé avec la poque. On doit comprendre qu'il l'a pris pour femme le jour même. C'est pas des longs préparatifs. C'est comme par hasard qu'il était à l'extérieur lorsque la caravane est arrivée. Donc lui, il a vu aussi là, que Dieu a conduit la caravane, les chameaux qui revenaient justement au moment où il était là en train de réfléchir. C'était la main de Dieu. Puis le serviteur fidèle y a assisté au dénouement heureux de sa mission. Le comportement respectueux de Rebecca aussi a prouvé une fois de plus qu'elle était vraiment celle que Dieu avait gardée pour Isaac. Elle a mis un voile devant son futur époux, une coutume pour qu'elle est respectée par les fiancés qui ne venaient pas être vus de leur fiancé. Puis on peut conclure aussi que Dieu a provoqué justement ce dernier événement, que Isaac se trouvait justement là, pour montrer que c'est lui qui est tout-puissant. Parce qu'on ne voit pas Dieu parler à aucun moment dans cette histoire-là. On ne voit pas Dieu dire, « Bon, je vais envoyer mon serviteur-là. » Mais on le voit agir. C'est ce que Moïse veut nous montrer lorsqu'il a écrit ce texte-là. Il veut nous montrer que Dieu agit dans les événements et que ceux qui ont la foi le voient. Et c'est ce qu'Isaac a compris. Puis Isaac a pris Rebecca pour femme, faisant confiance à Dieu. Il l'a conduite dans la tente de sa mère, ce qui montre qu'il a fait le deuil avec sa mère, son détachement, et que maintenant il s'attache à celle avec qui il va former une seule chair. Et Isaac aima sa femme. C'est l'ordre inverse de ce que la société nous dit. Trouve une future conjointe, même si c'est préférable que tu magasines, Vois celle que tu vas aimer le plus et si ton amour dure. Puis là, si ça marche, la conclusion ultime, là, le cheminement là, final, c'est de se marier. Mais la Bible nous présente exactement le contraire. Le mariage, c'est le début. Après, on a toute la vie pour apprendre à s'aimer. Parce que l'amour, selon la Bible, c'est beaucoup plus qu'un sentiment. C'est beaucoup plus que ce que la personne peut nous apporter. Lorsqu'on magasine, on est en train de magasiner la personne qui va nous rapporter le plus, qui va nous rendre le plus heureux, qui va contribuer le plus à alimenter notre sentiment d'amour. L'amour, selon Dieu, ce n'est pas ça. C'est un amour qui est tourné vers l'autre. Un amour sacrificiel, dévotionnel. C'est ce qui nous est ordonné dans Éphésiens 5, 25. « Marie, aimez chacun votre femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Si c'est un ordre, c'est parce que ça peut être le fruit d'une décision personnelle. On décide d'aimer. Certains vont dire « on peut pas décider, on ne peut pas forcer un cœur d'aimer. » Ben oui, on peut. On peut vraiment décider d'aimer. Mais heureusement, le Seigneur nous récompense à nous donner un sentiment d'amour lorsqu'on prend la décision. Ça va venir. Mais la décision est davantage un amour sacrificiel, un amour pour l'autre. Et pour un homme, avoir un sentiment d'amour incroyable, avoir le coup de foudre pour une femme non chrétienne, n'est pas une excuse et n'est pas un signe pour dire que Dieu approuve ce mariage-là. Et inversement, pour une femme, d'avoir un sentiment amoureux, une passion pour un homme qui n'est pas chrétien, ne vient en rien montrer que c'est la volonté de Dieu. Le critère le plus important dans le choix d'un conjoint devrait être que l'autre, on voit chez l'autre, son attachement pour le Seigneur. S'il est attaché au Seigneur, il va pouvoir prendre soin de nous, il va pouvoir nous aimer, il va pouvoir nous respecter. Et cet amour-là pourra être durable. Puis la dernière phrase est forte parce qu'elle montre le sens de tout ce passage. C'est ainsi qu'Isaac fut consolé après la perte de sa mère. On se souvient des événements du chapitre précédent. Sarah était décédée. Et lui et son père étaient dans le deuil. Mais Dieu prend soin de nous. Et non seulement il veut que sa volonté soit accomplie, mais en accomplissant sa volonté sur la terre, il veut notre bien, il veut nous consoler. Ce n'est pas un grand Dieu. Ici, Dieu, en envoyant le serviteur d'Abraham choisir une femme pour Isaac, il était en train d'accomplir un grand projet planétaire. Il était en train de former le futur peuple d'Israël, par qui la loi allait être donnée et qui a conduit jusqu'à notre salut aujourd'hui. L'Église n'aurait pas existé. Donc, c'était le grand plan de rédemption de l'humanité qui s'accomplissait là. Mais en même temps, Dieu a permis que ça arrivait juste au moment où Isaac avait besoin d'être consolé. Et il a voulu prendre soin d'Isaac à ce moment-là. Il l'a consolé par ces événements. Donc, même si on a un grand Dieu qui est capable de faire de grandes choses, qui a le contrôle sur les nations, il est capable en même temps de prendre soin de chacun de nous et nous accorder la consolation. Quel grand Dieu et bon nous avons. Donc pour cela, soyons des serviteurs fidèles. Puisque nous connaissons la bonté de Dieu, servons-le avec zèle, ne nous relâchons pas dans la mission qu'il nous a confiée. Faisons en sorte que lorsqu'il nous verra à la fin des temps, qu'il pourra dire « bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître, qu'on n'ait pas à rougir devant notre Seigneur. » Et Dieu nous console de nos peines sur cette terre. C'est vrai qu'on vit des choses difficiles, mais lorsqu'on s'accroche au Seigneur, il nous console. Et les consolations qu'on vit sur cette terre ne sont rien en comparaison à la consolation éternelle qu'on aura avec Dieu pour l'éternité. Mettons notre espérance dans cette consolation, cette félicité éternelle auprès de lui. Le Seigneur que nous devons servir fidèlement, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Allez à lui. Prenez Jésus comme votre seul Seigneur. Amen.